Dernière question. Le rêve et la réalité, hein, bah, ça c'est pas la moindre des questions. Oui. Point d'interrogation. Le rêve de la réalité ou la réalité du rêve? Le rêve et la réalité. Par quel bout prendre les choses?
Le sens de la question, c'était que pendant le rêve nocturne, la vie continue. Mmh. Voilà. Et donc il se passe des choses aussi, des événements auxquels on peut s'attacher aussi, une fois éveillé.
On peut s'attacher à des choses
À ses rêves.
À ses rêves.
Les voir se réaliser, par exemple.
C'est vrai que le dharma donne une certaine importance à l'enseignement traditionnel au rêve, puisque la pratique, finalement, elle englobe aussi la nuit. Pas de raison que la pratique, elle s'arrête. Elle commence le matin, elle s'arrête le soir, ce qui est déjà pas mal. Mais l'idée, c'est vraiment d'une continuité de l'esprit aussi, et de la nature de l'esprit. Donc quand on rêve, quand on s'endort le soir, on vit déjà un certain nombre de résorption, on va dire. Un peu comme quand dans la mort aussi on vivra, une façon de. Sauf qu'on n'est pas mort, puisqu'on se réveille le matin. On pourrait mourir aussi la nuit, hein, en s'endormant. Donc, quand on fait la sieste, certains éléments soufflent, se résorbent, et puis on entre dans une. On a un temps de. Justement, d'interruption. Il semble. Hein, il semble qu'on a un temps d'interruption. On s'endort. On ne s'est pas rendu compte qu'on s'était endormi. Puis, on rêve. Et dans le rêve, justement, si on ne se rend pas compte qu'on est en train de rêver, bah, on va vivre le rêve comme une réalité. À tel point que si c'est un cauchemar, si je suis en train d'avoir un hippopotame qui est en train de... Parce que ça peut être assez agressif, il paraît. C'est pour changer de l'exemple du tigre dans les rêves. Oh, donc, un hippopotame vous saute dessus avec sa bouche grande ouverte, vous vous réveillez en sueur. Oh là là, en fait, il n'y a pas d'hippopotame. Et où était l'hippopotame? C'est intéressant. Et toute la scène. Alors que vous étiez en train d'avoir les yeux fermés, allongés, tout ça est la production de votre esprit. Ça montre quand même que l'esprit peut produire des choses auxquelles on s'identifie, alors que ça n'a pas de réalité propre. D'où souvent ça est comparé à la vie ordinaire. Je crois que c'est une réalité et ça n'a pas de réalité propre. Ce matin, je parlais de désolidifier. Dans Bodhicitta Ultime et l'entraînement de l'esprit, Lojong, on dit « Vois tous les phénomènes comme un rêve. Sois un enfant d'illusion. » C'est pour désolidifier la réalité. Et ça fait écho à quand je rêve parfois, effectivement, alors que ça n'a pas de réalité, j'ai complètement solidifié. Donc par analogie, on peut comprendre que s'éveiller du rêve de la réalité, c'est déjà se rendre compte que ça n'a pas la réalité qu'on lui attribue. Une réalité solide, tangible. Ça va, hein? En analogie avec quand je rêve et je me réveille, je me rends compte que... Après, on se réveille, on est pris dans l'histoire. Oh mince, j'ai rêvé de ça. Oh là là, je vais te raconter mon rêve alors. D'ailleurs, on dit que les contes ont peut-être commencé comme ça. Quelqu'un a commencé à raconter son rêve et c'est comme ça que l'humanité a commencé. Donc, en tout cas, on peut être attaché à l'histoire. Comme je disais, peut-être que l'histoire nous apprend quelque chose. C'est intéressant aussi. C'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas peut-être dans la vie habituelle de la journée. Souvent, le rêve a été provoqué par quelque chose que vous avez entendu ou parlé. Souvent, si vous regardez ça, il y a quelque chose qui a déclenché. Mais ce n'est pas pour rien que ça a déclenché quelque chose en vous. Vous pouvez le regarder avec curiosité. Qu'est-ce que ça m'apprend? Il y a différentes sortes de rêves. Après, ça peut être aussi du point de vue de la pratique du rêve. C'est essayer de voir la nature même du rêve. C'est-à-dire, ça c'est le yoga du rêve après. C'est-à-dire, au moment où je m'endors, se donner l'induction, puis-je, en quelque sorte, saisir le rêve comme rêve pendant que je rêve? Sais-je voir le rêve comme rêve? Donc ça, c'est une pratique où ça n'est pas l'histoire qui est intéressante, c'est de faire l'expérience de la nature du rêve. ça aussi, c'est des pratiques qui peuvent... on peut avoir une sensibilité, une réceptivité au rêve, ou se donner des inductions. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut se donner beaucoup d'inductions le soir, déjà, pour arriver à faire ce qu'on appelle des rêves lucides, ou simplement saisir le rêve comme rêve. Tiens, tiens, je suis dans mon rêve, il se passe quelque chose. Mais en fait, tu ne crains rien parce que tu es en train de rêver. Hein, donc... donc il y a une analogie finalement entre la réalité peut nous sembler comme un rêve, oui, et le rêve peut nous apparaître parfois comme ayant une certaine réalité solide, mais finalement ça n'en a pas. Donc en fait ça n'est pas séparé, rêve et réalité ou rêve et illusion. Mais ça, c'est comme un jeu d'apparence en fait. Bien que les choses apparaissent, rien n'apparaît vraiment. C'est comme là, hein, par exemple, si vous pensez à quelqu'un que vous connaissez là, quelqu'un qui vous est cher, vous vient à l'esprit, pensez à cette personne. Hein, vous l'avez là dans votre esprit, vous la voyez cette personne, pensez à une personne. Puis là, je vous demande de regarder le Bouddha ici. Vous regardez le Bouddha ici. Alors qu'est devenue la pensée de cette personne ? Qu'est-ce qu'elle est devenue, la pensée de la personne ? Qu'est-elle devenue ? Où est-elle allée ? D'où apparaissait-elle ? Donc, bien que les choses apparaissent, elles n'apparaissent jamais vraiment. Ça, c'est le paradoxe. C'est comme, des fois, on regarde sa vie, on a vécu plein de choses, puis on a l'impression que c'était comme un rêve. C'est quelque chose que... hein, c'est-à-dire, bien que ce soit apparu, c'est comme si ça n'avait pas de réalité propre. Simplement, et ça, c'est ce que le Dharma nous dit de regarder de plus en plus profondément.
C'est comme si, ou effectivement, ça n'a pas de réalité propre.
Pardon ?
C'est comme si ça n'a pas de réalité propre, ou en réalité, c'est vrai, ça n'a pas de réalité propre.
Oui, ça n'a pas de réalité propre. Mais ça apparaît quand même. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Le rêve n'est pas séparé de l'illusion en ce sens. Où le rêve est la réalité. Bien que ça n'ait pas de réalité propre, ça apparaît en fonction de causes et conditions. C'est l'enseignement. C'est ce qui évite aussi de tomber dans le nihilisme, hein, ou dans l'éternalisme, ce qui sont les deux extrêmes de, on va dire, que le Bouddha a réfuté. Hein, dire que tout existe, c'est l'éternalisme. Dire que rien n'existe, c'est le nihilisme. Et la voie du Bouddha, c'est la voie du milieu. C'est-à-dire, justement, bien que ça n'existe pas tel qu'on le pense, ça apparaît néanmoins en fonction de causes et conditions. Causes et conditions réunies font apparaître ce moment. Ensuite, d'autres causes et conditions font apparaître autre chose. Donc ça nous relie aussi à l'interdépendance déjà dans un premier temps, c'est-à-dire, et à cette idée finalement de co-conditions. Hein, causes et conditions font apparaître des choses, simplement. Mais si on regarde trouver un soi dans ces causes et conditions, on ne trouve pas. Ça, c'est après les méditations analytiques. Où est ce soi qui existerait, n'existe pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Si j'arrive à voir ça en profondeur, alors je peux peut-être jouer des apparences. Après, c'est dans les histoires que vous allez lire des yogis où on voit tout un jeu sur les illusions et les apparences. Donc là aussi, à différents niveaux, on peut comprendre ça. Mais le rêve est toujours très intéressant à considérer dans la pratique même. Vous vous réveillez le matin, dites, tiens, j'ai rêvé quelque chose. Parfois, il y a des rêves très clairs aussi, des rêves très directs, des rêves... C'est très intéressant, le rêve, vraiment. C'est aussi la partie collective en nous. Il y a beaucoup de choses. On a fait beaucoup d'études sur le rêve. Dans des temps troublés, on est aussi des êtres pénétrés par des choses collectives, des énergies collectives. On peut aussi faire des cauchemars collectifs. Enfin, c'est... Donc, on peut regarder la nature de cela et peut-être aussi apprendre quelque chose un peu plus sur ce que nous avons à travailler aussi nous-mêmes. Parce que là encore, comme notre conscience a été mise en veille, est apparue des choses qui sont aussi des empreintes dont on n'a pas toujours conscience. Et parfois, c'est une indication de dire, oh là, ça me perturbe encore. Si je devais mourir en tant que pratiquant, c'est ça. Oh là là, j'aimerais pas que ça soit ça qui vienne au moment de la mort, parce que ça serait juste, ça nous donne une indication encore supplémentaire sur ça, cette empreinte, elle est forte. Donc, je sais comment pratiquer, je sais orienter ma pratique. En fait, dans une voie, au fur et à mesure, vous savez comment pratiquer, ce que vous devez pratiquer. C'est ça l'accompagnement. Voilà ce que j'ai à travailler. Et après, on le sait. On apprend à être habile avec ça, à être attentif. Et le rêve peut nous donner aussi des... Parfois, il y a des expériences, des bonnes expériences qui ont leur manifestation au rêve. On peut aussi rêver de Chenrezig, rêver de Sangyemenla, ou faire des rêves qui montrent qu'on a aussi des empreintes profondes. Si on en rêve, c'est que l'empreinte est profonde.
J'ai une question, comment
peut-on
expliquer rêves prémonitoires?
De quoi?
Des rêves prémonitoires.
Ah oui, des rêves prémonitoires. J'en ai eu plusieurs, je ne sais pas l'expliquer. Alors après, les rêves prémonitoires, alors, ça dépend. On peut rêver de comment dire, il faut distinguer juste toujours entre, enfin, quelqu'un dit, ah, ça c'est arrivé, j'avais rêvé de ça, mais il le dit après coup. C'est-à-dire le lien est comme c'est arrivé, mais il y a plein de rêves qu'on fait où ça n'arrive pas. Donc, vous voyez, tout dépend du lien que l'on fait. C'est un rêve prémonitoire, peut avoir bien sûr hein, des intuitions, etc. À ce moment-là, vous saurez les choses avant que... Après, il peut y avoir des synchronicités aussi. Comme je disais, des ressentis de choses qui font que on sent que on a là aussi on n'est pas si imperméable que ça. Donc des choses peuvent se manifester. Mais juste faut toujours faire attention dans les extrêmes, comme on dit toujours. C'est-à-dire parfois des personnes disent ah j'ai fait ce rêve, c'était ça, mais en fait c'est juste qu'elles le déduisent après coup. Le rêve c'est aussi quand est-ce qu'on se raconte le rêve, à quel moment? Ouais, fait aussi des... En fait, c'est peut-être au moment où on se réveille qu'on se raconte le rêve. On ne sait pas ça. Enfin, je veux dire, il y a des études. Là aussi, c'est assez complexe, le rêve. À quel moment on reconstitue l'histoire? Donc, c'est... Mais en tout cas, on peut voir qu'il y a effectivement... Ça, c'est après une question personnelle où on ressent que, justement, oui, l'esprit n'est pas enfermé au sens... C'est l'esprit expérience. C'est pas dans les sociétés traditionnelles hein, où les personnes ont étudié le rêve, les sociétés, les tribus, certaines tribus on parle chacun le matin raconte son rêve hein, comme une contribution aussi à la vie sociale. Et si quelqu'un fait un mauvais rêve, on lui dit de repartir dans son rêve, de changer ce qui lui faisait peur par exemple dans le rêve, et de ramener un cadeau pour la tribu. C'est-à-dire, le rêve a aussi une fonction sociale, de lien, et comment dire, de cadeau, en quelque sorte. C'est-à-dire, on ramène quelque chose pour les autres. Donc, et en général, on a remarqué aussi que dans ces sociétés, on s'intéresse beaucoup aux rêves, on échange ses rêves, etc., il y a apparemment moins de maladies mentales. Alors qu'à une époque en Occident, quelqu'un qui rêvait, c'est pas encore si vieux, c'est qu'il allait mal. Les médecins disaient, oula, vous avez rêvé, vous êtes perturbé. C'est intéressant. Ces histoires aussi ne sont pas les mêmes. Alors évidemment, on ne peut pas comparer des tribus qui ont cette culture-là, donc qui favorisent cette expérience. Vous voyez, une culture favorise une expérience. Pourquoi nous, on ne parle pas de rêve? Parce que notre culture ne favorise pas ce genre d'expérience. Pourquoi ça n'a lieu qu'en Inde? Parce que ça favorise cette expérience. Et ça favorise d'en parler. Ça favorise. Nous n'avons pas ce terreau. Donc, où est-ce que ça s'inscrit? Pour les gens, c'est n'importe quoi. Et ça n'a pas de sens, puisque ça ne peut pas s'inscrire. Après, c'est des convictions personnelles, vous, dans ce que vous vivez. Vous pouvez faire des liens avec des choses. Mais autrement, vous comprenez bien que y a des choses, ça fait bizarre d'en parler, parce qu'on n'a pas le terrain pour le rendre compréhensible, tout simplement. Peut-être que si on avait... culture où au bout d'un certain temps on est vraiment beaucoup échangé sur tout ça, ben peut-être qu'on pourrait parler de choses effectivement, qui nous paraîtrait beaucoup plus naturel. Tout le monde comprendrait de quoi on parle. Autrement, ça fait toujours un peu bizarre. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a pas, on peut pas, c'est difficile à décrypter. Ou ça donne lieu à des choses qui vont pas nous aider, en fait, parfois, quand c'est sorti d'un contexte. Donc ça, c'est tous les livres sur la réincarnation. Qu'est-ce qu'on a été ? On a tout été. Une mouche. Tous les règnes. Végétal, minéral, animal, humain, etc. Et c'est solidifié, en fait. Vous voyez, la solidification amène toujours, du point de vue de l'enseignement du Bouddha, qui est un enseignement sur la vacuité, c'est le cœur, c'est la vision, la vue de la vacuité. Dès qu'on solidifie, on est sûr qu'on n'est pas dans la bonne direction. Donc, toujours désolidifier. La voie du milieu, au-delà des extrêmes. On voit les extrêmes et ce n'est pas la bonne solution. La voie nihiliste, elle existe aussi. Parce que dès, vous voyez, qu'on parle, par exemple, de façon négative de certaines choses, non-attachement, non-ego, ou même vacuité, si on solidifie ça, ben on va renforcer des formes de dépression, de dépréciation de la vie. C'est parfois le dharma dans nos sociétés aussi, il est vécu d'une façon très nihiliste. Les gens sont encore plus déprimés, encore plus tristes, parce que de toute façon, tout ça ne rime à rien, il n'y a rien. Alors, forcément, ça en fiche un coup de déconstruire les choses, de les désolidifier. Ça, c'est vrai. Mais si on s'arrête là et qu'on solidifie, comme on dit dans le jong, ne lâche l'antidote. L'antidote à la solidification, c'est la vue de la vacuité. Mais si tu saisis la vacuité à nouveau comme une entité, c'est la catastrophe. Donc ces extrêmes, ils existent, parce qu'ils existent dans l'esprit tout le temps. La tendance à croire quelque chose d'une façon, comme les tendances dont on parlait tout à l'heure, et les deux sont affectés d'ignorance, en fait. Penser que ça existe vraiment, ou de penser que rien de tout ça existe. Donc, avec notre vision générale, on aime bien. C'est la logique habituelle un peu qui a son sens dans un certain contexte. Mais alors, c'est ça ou c'est ça ? C'est blanc ou c'est noir ? Des fois, c'est ni l'un ni l'autre. Au-delà, on ne sait pas.